France Culture. France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
La vérité judiciaire est généralement produite à l'issue d'un procès et se matérialise dans un verdict motivé. Ce verdict est parfois susceptible d'appel et cette vérité judiciaire peut s'en trouver plus ou moins profondément modifiée. Il y a toutefois d'autres vérités que la vérité judiciaire. Elles peuvent être, par exemple, produites en respectant d'autres logiques, d'autres règles, par le journalisme, par la littérature ou plus généralement les formes artistiques ou bien encore par les sciences humaines et sociales. La vérité judiciaire des attentats terroristes perpétrés en novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis a été rendue à l'issue d'un procès qualifié d'historique. Cette vérité ne changera pas puisque ces décisions de justice n'ont pas fait l'objet d'appel. Pour autant, une équipe de chercheuses et de chercheurs, en observant au long cours ce procès, propose aujourd'hui un autre récit des attentats comme de leur mise en procès. Certaines et certains d'entre eux sont cette semaine les invités de la suite dans les idées. Une émission qui va faire un peu entorse au principe habituel, puisqu'en seconde partie, ce n'est pas une personne issue du domaine de la création artistique qui viendra dialoguer avec une chercheuse et un chercheur invité en première partie, mais une chercheuse elle-même, une historienne, en l'occurrence Sylvie Lindeberg, mais une chercheuse qui s'intéresse depuis très longtemps au cinéma, aux relations entre le cinéma et la justice, à la manière en particulier de filmer des procès. Et Sylvie Lindeberg a fait partie de cette équipe assez considérable de chercheuses et de chercheurs venus de toutes les disciplines des SHS ou à peu près, qui ont suivi de façon très méticuleuse le procès durant toute sa durée. Donc elle nous rejoindra pour parler plus précisément des aspects cinématographiques, des aspects de captation de ce procès. Mais dans la première partie, c'est une anthropologue et un juriste qui viennent nous parler d'un livre qui paraît également un autre livre que celui de Sylvie Lindeberg. Un verdict sans appel qui paraît aux éditions Actes Sud, sous-titré « Enquête sur le procès des attentats de novembre 2015 ». Pauline Jarroux et Antoine Mégis sont avec moi aujourd'hui. Vous avez deux co-autrices, Sandrine Lefranc et Anne Vivekins, qui, tous les quatre, vous avez écrit ce livre. Alors peut-être pour commencer, convient-il de replacer cette démarche dans ce groupe de recherche qui va donner lieu à d'autres publications, à des films, si j'ai bien compris, à d'autres productions. Ça s'appelait Prométhée, et c'est une équipe de recherche, comme on en voit rarement, qui vous a permis d'aller à tour de rôle, ou tous ensemble parfois, suivre ces journées d'audience dans ce tribunal spécial à bien des égards, fabriqué pour l'occasion au cœur du palais de justice de Paris. Pauline Jarroux.
Oui, en fait, c'est un collectif qui s'est formalisé, disons, en 2021-2022, à l'occasion du procès des attentats de novembre 2015, justement. Mais disons que parmi nous, certains et certaines travaillaient sur la justice déjà depuis quelques années. Antoine Mégis, en l'occurrence, sur la justice antiterroriste. Sandrine Lefranc travaillait sur d'autres types de procès, notamment les procès du génocide rwandais. Mais c'est sûr que ces procès, ces procès historiques du terrorisme, en intégrant aussi celui des attentats de janvier 2015 et puis du procès de l'attentat à Nice, ont intéressé un certain nombre de chercheurs et chercheuses. Et donc, en fait, on s'est retrouvés, je parle aussi pour Sylvie, on s'est toutes et tous retrouvés à travailler sur ces procès-là. Et en fait, le collectif est né un petit peu comme ça. Il s'est formalisé par la pratique. Et puis, on a décidé d'en faire un collectif pluridisciplinaire, de faire discuter nos objets de recherche différents. Sylvie sur le cinéma, Antoine plutôt sur ce que c'est que la justice antiterroriste, d'autres plutôt sur l'histoire. Moi, en l'occurrence, c'est plutôt la scène du procès, les interactions. Donc voilà, c'est un collectif qui s'est formé par la force des choses et par la pratique de l'observation des procès.
Antoine Mégis.
Oui, effectivement, le point commun a été en fait le procès en tant que moment, en tant que lieu, finalement en tant qu'objet de recherche. Et c'est ça qui a été vraiment passionnant, c'est que toutes et tous, on a pu, à travers un même lieu partagé, un même moment partagé assez long. Alors, on parle du procès des attentats de novembre 2015, donc c'est un procès de 10 mois, mais comme l'a souligné Pauline, il y avait eu d'autres audiences, d'autres expériences collectives sur des procès parfois beaucoup moins médiatisés, moins connus, mais qui nous ont permis de forger en fait des pratiques de recherche. Et au moment de ce procès historique, annoncé comme tel, avec une très forte pression aussi médiatique, mais sécuritaire, autour même de la salle, il y avait l'enjeu de la place de la recherche. Où doivent se situer les chercheuses et les chercheurs? Dans la salle d'audience, mais aussi dans les salles de retransmission, mais aussi finalement dans ce qui fait le jeu d'un palais de justice, les couloirs ou les lieux de socialisation. Et donc c'est à travers des méthodes très différentes, hein, certaines, regardez, et vous en parlerez tout à l'heure, le film, les angles de cadrage, etc. D'autres, passaient leur temps dans les couloirs à faire des sortes d'entretiens un peu ethnographiques avec telle ou telle participant civil, par exemple, ou tel témoin, voire avec du public, parce que c'était aussi important de percevoir un peu les observations. Donc, tout cela a donné lieu à une sorte de laboratoire de recherche pendant 10 mois, où les uns et les autres, on a pu vraiment explorer et partager aussi les différents regards.
Alors, c'est une expérience aussi épistémologique, c'est une expérience sur les modes de connaissance. On a des faits, ce sont ces attentats, et la justice doit en l'occurrence considérer ces faits du point de vue des règles de droit afin de déterminer des culpabilités. Face à ces mêmes faits, exactement, les sciences sociales ont un autre rôle en fait. Et il y a une forme d'emboîtement dans votre enquête entre ce que vous avez à dire de l'observation de la justice en train de se faire, de se fabriquer et donc de traiter ces faits, et ce que vous avez à dire à travers ce prisme, des faits eux-mêmes plus directement. Il y a toujours cette double dimension dans la recherche, Pauline Jarreau.
Oui, c'est vrai que l'objectif de l'ouvrage est à la fois double, c'est-à-dire d'abord comprendre ce qu'a été ce procès-là, quels ont été ces acteurs, comprendre leur pratique, leur stratégie, en tant que, par exemple, les avocats ou magistrats, en tant que professionnels, ils ont agi comme des professionnels avec des routines, etc. Donc, effectivement, le premier volet de ce livre, c'est de décrire avec les outils des sciences sociales
l'observation, surtout.
De l'observation, voilà, de
des entretiens aussi, des enquêtes par questionnaire aussi, mais enfin principalement de l'observation.
L'observation, voilà, pour d'abord décrire et donner à comprendre ce qu'a été ce procès. Et puis, en effet, il y a un second objectif qui est, à partir des mêmes faits, d'essayer de proposer un autre regard sur la manière de les appréhender. En l'occurrence, par exemple, la question de l'engagement violent, on propose, à partir des propos qui ont été tenus par les accusés à l'audience, on propose de les interroger autrement qu'à travers le prisme de la radicalisation religieuse, pardon, qui a été le principal filtre à travers lequel cet engagement violent a été lu. Donc effectivement, c'est un espèce de... Il y a plusieurs tiroirs qu'on peut ouvrir dans ce livre-là. Pareil, de la même façon pour les victimes, hein, c'est-à-dire comprendre les effets de la violence autrement qu'à travers la seule question du traumatisme et de la souffrance.
On va revenir sur chacun des différents types d'acteurs, les accusés, les victimes, les professionnels du droit, que sont les avocats, et puis ceux qui sont là aussi pour faire leur travail de journaliste, par exemple. Mais Antoine Mégy, sur cette dimension un peu épistémologique, ce que vous pouvez mettre en évidence, au fond, c'est le cadrage choisi, le cadrage induit aussi par des logiques du droit, et puis la marge de manœuvre que ces professionnels du droit peuvent avoir par rapport à ces règles, et le choix, Pauline Jarreau en pointait un, par exemple, le fait d'insister sur la dimension religieuse de la radicalisation, qui n'est pas une évidence lorsqu'on est un chercheur en sciences sociales et qu'on s'intéresse exactement aux mêmes personnes, aux mêmes faits.
Alors, effectivement, c'est tout l'intérêt de choisir le procès comme l'objet à observer, à étudier, à déconstruire. Le procès, c'est à la fois, ce qu'a dit Pauline, un lieu de connaissance, d'information. Et là, on parle d'une matière qui s'appelle la lutte contre le terrorisme et qui est marquée du sceau du secret. Donc pour avoir accès à ces données, on peut avoir un accord de recherche avec telle ou telle institution. Certains ont fait à partir des dossiers judiciaires et ont permis de comprendre telle sociographie des personnes poursuivies ou condamnées pour terrorisme. Mais il est toujours très difficile d'avoir des données sur le fonctionnement à la fois des groupes, mais aussi de l'enquête antiterroriste, voire les usages des pratiques des groupes terroristes, de leur fonctionnement. Et puis de l'autre côté, comment les services de sécurité entendent justement combattre cette violence. Et lors d'un procès, lors d'une audience, eh bien on a toutes ces données. Et c'est justement à partir de ces données que l'on peut aussi reconstruire, repenser des problématiques plus larges autour de la violence politique, de la violence terroriste, des dynamiques d'engagement dans cette violence, donc des accusés, mais aussi de la manière dont l'État y répond par justement les services de sécurité. Vous parliez du cadre. Le procès, c'est aussi, on parle de pièces de théâtre, effectivement, il y a les unités de temps, il y a l'unité de lieu, et puis il y a un scénario. Ce scénario, il n'est pas écrit totalement, mais il est quand même largement et très fortement intégré à ce qu'on appelle le code de procédure pénale. Et on le voit bien, c'est un cadre qui va déterminer, prédéfinir les échanges, le type d'échange. Donc ce cadre, il est particulier dans les procès dits terroristes, puisque la cour d'assises est une cour professionnelle, c'est-à-dire composée uniquement de magistrats. Un exemple, donc, de l'importance de ces règles de procédure pénale qui donnent lieu au procès et qui organisent le procès. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la particularité de ce procès dit historique, c'est qu'il s'inscrit dans une histoire. Une histoire très longue, l'histoire des procès dits terroristes. Alors, on a travaillé avec une des membres, justement, et plusieurs du collectif sur l'histoire des procès du terrorisme et qu'on... pour donner une perspective historique, il s'inscrit dans une histoire plus récente, dans les années 80, 90, et puis dans une histoire d'urgence, celle des attentats de 2015, où on a commencé à construire un vrai savoir et des vraies pratiques de la justice antiterroriste face à un contentieux qui a explosé. Et donc, le moment du procès des attentats de novembre 2015 vient finalement s'inscrire dans cette histoire où l'on a construit une pratique des procès, et dans cette pratique des procès, c'est bien la radicalisation religieuse qui apparaît comme un cadre central de l'accusation, mais aussi de la manière dont les juges doivent définir ou non la culpabilité et ce qu'on va appeler l'intentionnalité du terrorisme à travers ce terme un peu fourre-tout de la radicalisation.
Ce procès s'inscrit dans une histoire, vous venez de le rappeler, Antoine Mégy, mais il s'inscrit aussi, Pauline Jaroux, dans une société. Or, la logique du droit pénal, et vous le montrez, et heureusement du point de vue des libertés fondamentales et des libertés individuelles à certains égards, est une logique individuelle, une logique individualisante. On ne peut pas condamner une personne parce qu'elle appartiendrait à un groupe. On fait attention à singulariser les personnes. Évidemment, cette singularisation, pour un sociologue ou pour une anthropologue qui s'intéresse précisément aux relations sociales, aux interactions sociales et qui cherche à les observer, ça pose un peu problème, en fait. Et vous soulignez, vers la fin de l'ouvrage, un parallèle intéressant, une forme de contraste entre ce procès qui a beaucoup insisté sur ces trajectoires singulières des individus, et puis un autre procès plus récent, le procès de Mazan, où les logiques collectives ont été appliquées, au fond, pour tenter d'expliquer, de lire, de comprendre d'autres violences. Et il y a là un contraste assez saisissant, en fait, dans la manière dont, avec les mêmes règles de droit, même s'il ne s'agit pas évidemment de mêmes faits, on vient lire, au fond, ou qualifier ces faits juridiquement. Pauline Jaroux.
Oui, en fait... Ce qu'on a montré à travers ce livre, c'est un espèce de paradoxe dans la manière dont les accusés ont été finalement considérés par tout un tas de jeux d'acteurs et de logiques. Hein. L'idée, c'est pas de dire que... c'est un travail collectif à l'issue de ce procès. Il y a effectivement une attention qui a été portée aux individus en tant que tels. Sauf que c'est la même logique de radicalisation qui a été appliquée à tous. Et donc finalement, on a perdu le sens, on a gagné. Alors, je sais pas bien comment expliquer les choses. Mazan, l'idée c'était, à travers le travail sur les accusés, de montrer des faits collectifs. De montrer du collectif, la part du collectif dans...
Même lorsque les faits étaient individuels, au fond, l'inscription dans le collectif de ces faits.
Exactement. Alors que pour le... Bon, et on n'a pas fait une étude poussée du procès Mazan, mais ce qui nous a frappé, c'est qu'au final, pour le procès V13, on a certes prêté attention au parcours, mais à notre sens, pas assez. Et surtout, la seule forme de collectif qui a émergé, c'est cette figure de l'individu radicalisé, sans porter attention à d'autres formes de collectif. En l'occurrence, on montre un petit peu dans le livre comment la question des réseaux de sociabilité, les amitiés de quartier, la question des réseaux délinquants également, dans lesquels, ce sont des milieux dans lesquels qui concernaient un certain nombre d'accusés. Tout ça, ce sont des figures du collectif qui ont été passées sous silence. Donc en fait, on a perdu des clés de compréhension dans ce rapport-là. Il me semble, c'est un des éléments qu'on montre dans le livre.
Et effectivement, c'est aussi une des conséquences de la manière dont la justice antiterroriste a construit une pratique, à travers notamment l'individualisation de l'engagement dans la violence dite terroriste, et en l'occurrence ici la violence djihadiste, puisque très rapidement on a vu autour de ces questions de radicalisation s'engager aussi la voie de la psychologisation, de la question de l'individu, avec toujours cette problématique inhérente à la question de la manière dont on bascule dans une violence irrationnelle, c'est-à-dire sont-ils fous ? Où sont-elles folles ?
Avec l'irruption dans la salle d'audience des sciences sociales, mais pas à la même place que la vôtre. Vous étiez là pour observer, mais les sciences sociales et les sciences humaines ont été convoquées comme experts, et en général, la psychologie, la science politique, dans des formes d'expertise qui venaient valider ce que vous venez de pointer, c'est-à-dire cette logique individuelle à l'œuvre, que ce soit pour des raisons psychologiques ou pour des raisons qu'on peut déduire d'un certain type de lecture de la science politique, qui ne sont pas toutes les lectures de la science politique de ces phénomènes de radicalisation.
Mais effectivement, c'est le paradoxe, c'est parce que le terrorisme est un phénomène qui, justement, concerne à la fois des logiques individuelles, mais aussi collectives. Et le droit est d'ailleurs dans cette reconnaissance de la logique collective, puisqu'on parle d'une incrimination d'association de malfaiteurs terroristes. Et donc, c'est là le paradoxe qui était pointé, c'est que à la fois, on doit les reconnaître comme des membres d'une association de malfaiteurs terroristes, mais qu'en même temps, on va rentrer dans des explications, et notamment par la place de certaines sciences sociales et de certaines approches, notamment psychologiques ou psychiatriques, sur une logique individuelle, d'engagement, comme si c'était peut-être plus compréhensible pour notre rationalité de voir qu'une personne s'engage individuellement. Or là, et c'est, je pense, aussi une hypothèse qu'on a pu observer dans beaucoup de procès qu'on a étudiés, c'est qu'il y a toujours des logiques collectives d'engagement, et que ces logiques collectives d'engagement, elles viennent s'articuler à des parcours biographiques individuels, et c'est tout ce paradoxe. Donc on est toujours dans cette tension d'une action et d'un crime qu'on reconnaît à la fois par la responsabilité des individus, mais qu'on place dans une dynamique collective d'associations de malfaiteurs terroristes. Le droit en a construit quand même une interprétation assez large.
Alors, vous vous intéressez aux accusés, bien évidemment, on vient de le comprendre, mais vous vous intéressez également aux victimes qui sont, d'une part, très nombreuses à être présentes, ou en tout cas représentées dans ce procès, ce qui en... C'est l'une des raisons pour lesquelles on a pu le qualifier de procès historique, l'une des, simplement. Et de ce point de vue-là aussi, il vous semble que le prisme de la justice, tel que mis en œuvre dans ce procès, a considéré ces victimes de certaines manières particulières, alors qu'il aurait pu le faire autrement, en quelque sorte. Pauline Jarreau.
Oui, c'est l'un des fils analytiques qu'on suit, c'est-à-dire... je l'ai dit tout à l'heure, la centralité du vocabulaire du traumatisme qui a à la fois structuré les questions de la cour, les questions des magistrats de manière générale, les interventions des avocats aussi, dans la continuité, l'idée que le témoignage aurait aussi des vertus thérapeutiques, c'est toujours un peu cette même idée. Et c'est un prisme alors qui s'inscrit dans des vers, il est, c'est très lié aussi à l'évolution que à l'évolution du regard porté par la société sur les victimes hein. C'est d'ailleurs pas propre à la sphère judiciaire. La sphère judiciaire a été retravaillée par l'évolution du regard porté sur les victimes, comme d'autres sphères par ailleurs. Et donc cette question du traumatisme là, oui, effectivement, elle a cadré les échanges. Elle a aussi contribué, en tout cas, ça fait partie des idées qu'on développe. Elle a contribué aussi à exclure d'autres types de discours qui auraient pu être portés par des victimes. Soit de manière très directe, par exemple, comme lorsque les présidents rappelaient que le procès, c'était pas le lieu de faire le procès, par exemple, des dispositifs d'indemnisation, ou que c'était pas le moment de parler des éventuelles failles de sécurité ou des défaillances d'un certain nombre de services à la suite des attentats. Alors que, en fait, pour certaines victimes, c'était aussi précisément de ça dont il était question. Et être victime, c'est pas seulement être victime d'un attentat, c'est aussi une condition de victime qui impose un certain nombre d'interactions ensuite avec tout un tas d'institutions et qui participe à la condition de victime. Donc c'était intéressant de voir, c'était intéressant, en tout cas de notre point de vue de chercheur, ça nous a intéressé de voir, de considérer les témoignages aussi comme un moment de réglage de qu'est-ce qu'on dit à la cour, et qu'est-ce qu'on dit à la cour avec l'idée qu'en fait un témoignage, c'est pas une parole libre et spontanée, hein, c'est un moment qui est construit, contraint par la cour, par les avocats en amont qui expliquaient ce que la cour pouvait attendre d'eux, et notamment en insistant sur la question des dommages, des souffrances. Voilà. Et en l'occurrence, donc l'observation des audiences et puis les entretiens qu'on a pu faire avec des victimes parties civiles montraient que c'était pas du tout le seul registre de paroles qu'elles auraient voulu tenir.
Antoine Mégy.
Dans la même perspective, on a beaucoup parlé d'un procès fait pour les victimes, centré sur les victimes, et ça a été le cas. C'est-à-dire qu'il y a eu une mobilisation institutionnelle autour de la construction, et on en reparlera, mais tout à l'heure sûrement, sur la théâtralisation hein, de cette scène d'audience historique qualifiée comme telle. Donc il y a eu tout un dispositif au centre duquel les parties civiles, les associations également dans la coproduction de cette scène ont joué un rôle important. Ça a aussi impliqué des transformations dans l'ordre de parole. Donc on voit bien que cette présence des parties civiles a été centrale, qu'elle a amené une considération envers leur place importante, ce qui n'a pas toujours été le cas dans la justice antiterroriste. Hein. On se souvient du combat justement pour faire reconnaître les victimes du terrorisme dans les années 90. Mais derrière cette idée que les victimes ont été centrales et qu'on a pris en compte tout ce qu'elles voulaient, ce qu'on a pu voir aussi par le suivi de ces audiences, par la socialisation qui a été la nôtre au cœur de ces associations, parce que l'observation nous a permis d'avoir des relations peut-être singulières avec ces personnes qui venaient.
Tout le monde les entretiens pas. Que vous avez menés aussi avec certaines d'entre elles.
Exactement, que Pauline a mené en amont ou pendant ou après pour certains, nous ont montré qu'il y avait aussi une remise en cause de cette position de partie civile de victime, que finalement elle-même se sentait parfois remise en cause dans ce qu'elle voulait présenter à la justice ou dans ce qu'elle ressentait vis-à-vis de la justice. Donc voilà, notre idée par cette déconstruction un petit peu des grands stéréotypes qui ont pu être écrits sur la justice, mais aussi sur ce procès qualifié d'historique et appelé V13, donc c'est une sorte de marque, hein. Eh bien nous, c'était d'apporter en fait cette complexité et de voir que le rôle, la place des victimes n'était pas si unique qu'elle impliquait des remises en cause, parfois vécues très fortement par les parties civiles elles-mêmes, tout au long, voire après le procès qui a eu lieu.
On s'arrête un instant sur le rôle des avocats, des juristes, que ce soit les avocats des parties civiles ou les avocats qui défendaient les accusés. Comment vous les avez observés? Est-ce que là aussi, comme pour les accusés, comme pour les victimes, il y a eu une tendance de la mécanique du procès, au fond, à les considérer comme un bloc? Ou est-ce qu'il y a eu davantage de tensions, de compétition entre eux, de différences?
Je dirais que l'observation à proprement parler, si l'on s'en tient à l'observation, on avait plutôt l'impression, en tout cas pour les parties civiles, d'une relative concorde. Et en fait, comme toujours, dès qu'on creuse un peu, dès qu'on s'entretient avec les acteurs ou qu'on mène des discussions un peu plus approfondies, effectivement, on se rend compte qu'il y a de nombreuses lignes de tension. Dans l'ouvrage, on en souligne quelques-unes. Par exemple, alors au-delà des spécialités entre les avocats spécialistes du droit du dommage corporel, les avocats pénalistes, tous les avocats n'étaient pas issus des mêmes spécialités. C'était aussi, en tout cas, l'une des principales tensions qu'on souligne, c'est cette question de savoir quelle est la place de l'avocat de la partie civile en l'occurrence. Est-ce que c'est un rôle est-ce que le rôle est surtout en fait d'incarner la victime, la partie civile, d'en parler à l'audience et de défendre ses intérêts, ou est-ce que c'est aussi un rôle d'accusation? Et en fait, ce qu'on montre, c'est que, alors, c'est deux positions qui sont en fait relativement classiques, et que bien des avocats ont en fait joué sur les deux tableaux. Avec l'idée que, encore une fois, il y a des spécialités. Les avocats spécialistes en droit du dommage corporel ont plutôt insisté sur la spécificité des atteintes liées à l'attentat, pour faire évoluer, ou en tout cas pour amener les magistrats à interroger, à prendre en compte en tout cas la diversité des atteintes et leurs spécificités. Mais en fait, une grande diversité d'avocats s'est retrouvée sur cette espèce de jeu entre les deux tableaux, avec l'idée en plus que les avocats, pour ce procès, se sont très largement coordonnés en amont. Ce qui explique aussi pourquoi la concorde était visible. Ils se sont beaucoup coordonnés. Ce qui est par ailleurs, c'est pas une spécificité du procès V13, mais enfin, ça arrive pas à tous les procès non plus.
Antoine Mégy, vous voulez
compléter ? Oui, c'est effectivement l'idée de montrer que un procès terroriste, c'est aussi un procès qui s'inscrit dans une pratique de la justice. Et si on s'était arrêté finalement aux acteurs qu'on a évoqués, les accusés bien sûr, les victimes bien sûr, il nous semblait essentiel de comprendre que ces procès historiques, terroristes, toujours qualifiés avec des superlatifs de récurrents, exceptionnels, etc., finalement s'inscrivaient aussi dans une pratique de la justice, du quotidien. Et donc aller observer ces avocats, c'était aussi faire le lien et comprendre qu'il ne fallait pas essentialiser ce procès comme un procès unique, mais au contraire l'intégrer dans une sociologie plus classique de la justice. Et c'était le passage par les avocats qui nous permettait aussi de le comprendre, comme pour les juges, dans la même perspective.
Ce que j'ai trouvé assez fascinant en lisant cette enquête, enfin en lisant votre livre, Un verdict sans appel, c'est qu'au fond on voit comment ceux qui ont été chargés de faire le récit de ce qui se passait dans ce procès dans les journaux, c'est-à-dire à la fois les journalistes judiciaires, mais aussi parce qu'ils ont été sollicités, des écrivains qui ont fait des chroniques dans les journaux, en ont fait des livres parfois après. Les deux, en fait, se sont coulés au fond dans le cadre proposé par le procès. Au fond, ils ont été très congruents dans leur approche avec le cadre du procès, ce qui est beaucoup moins le cas des sciences humaines et sociales. Alors, j'ai pas été surpris par ça, parce que c'est un constat que je fais souvent, c'est-à-dire qu'il me semble que les journalistes ont plus facilement tendance à mettre leur pas dans ceux des juges d'instruction ou des magistrats en général, ou des policiers, que dans ceux des sociologues. Et là, on le voit admirablement avec votre enquête, Pauline Jarroux.
Alors, je dirais que d'abord, nous-mêmes, on a été pris aussi dans ce récit judiciaire. On a, Antoine, tu me complèteras. On a été pris dans ce récit. On a aussi vécu ces montagnes russes-là, c'est-à-dire passer de semaines de témoignages des parties civiles, ensuite à écouter les accusés. Tout ça, ça crée évidemment tout un tas de remous, de sentiments très différents, etc. Donc, de la même manière que, j'imagine, pour les avocats ou même pour les magistrats. C'est l'histoire, enfin, l'image des montagnes russes, je l'emprunte à un magistrat qui expliquait de cette façon la manière dont lui-même entendait et vivait le procès. Mais le propre des sciences sociales, en tout cas, c'est ce moment d'objectivation, c'est-à-dire de mise à distance, nécessaire pour produire un savoir de type scientifique, en tout cas. Et c'est par ce travail d'objectivation-là qu'on met à distance le récit judiciaire, qu'on l'étudie comme un objet et qu'on le décortique. C'est la condition nécessaire, mais en même temps, c'est ce qui...
C'est affaire de temps, mais c'est aussi sans doute affaire de réflexe, Antoine Mégy, sur
alors,
le moment.
Et c'est affaire de temps, vous avez raison. Beaucoup nous disent, bon alors, quand est-ce qu'on lit ce que vous avez fait? Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes temporalités. C'est affaire aussi de réflexe professionnel. C'est-à-dire que on vit avec la presse judiciaire, hein. On peut passer, être confondu avec la presse judiciaire, jouer parfois de ce jeu de confusion parce qu'ils ont souvent plus de droits que les chercheurs ou les chercheuses, parce que eux ils sont en permanence, effectivement, et on participe aussi, comme la presse judiciaire, à une sorte de construction d'un récit. Ça, je pense que c'était aussi un réflexe de réflexivité que nous avions toutes et tous dans le collectif de recherche. C'était à chaque fois de s'interroger sur est-ce que quelle est ma place dans la production même de ce récit, des archives. Voilà, donc de ce point de vue-là, on a toujours été maintenu en alerte, même si pendant les 10 mois, effectivement, on a pu coproduire. Et puis après, c'est le temps de la réflexion, c'est le temps aussi d'aller chercher des cadres théoriques qui nous permettent de prendre cette distance. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec ce livre, c'est-à-dire apporter, non pas contre uniquement, mais en complémentarité de ces récits, un regard des sciences sociales sur le fonctionnement de la justice et en l'occurrence de ce procès.
Alors on poursuit cet échange sur le regard des sciences sociales à propos de ce procès V13, ce procès des attentats de novembre 2015, avec une historienne, Sylvie Lindeberg, qui nous rejoint. C'est après un extrait du nouvel album de Greg Freeman, Salesman.
France Culture, la suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
They sounded
C'est un sociologue, Cyril Lemieux, qui nous rejoindra en dernière partie de l'émission, dans la rubrique Actualité, pour évoquer ce festival Allez Savoir qu'il a co-organisé cette année, qui ouvre aujourd'hui à Marseille et se tient jusqu'à dimanche, le festival de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Mais avant ça, on poursuit notre échange à partir des travaux d'une partie des chercheuses et chercheurs de l'équipe Prométhée, consacrée donc à l'observation par les sciences humaines et sociales du procès V13, ce procès des attentats de novembre 2015. Et on en parle maintenant avec une historienne, Sylvie Lindeperg, qui va faire paraître dans quelques jours aux éditions Verdier, Archéologie d'un procès, juger les attentats du 13 novembre 2015. Là encore, c'est extrêmement intéressant de repartir de cette notion de procès historique, avec des guillemets, que vous utilisez toutes et tous comme chercheur, parce qu'il a été qualifié en quelque sorte comme tel avant même que vous commenciez à travailler à proprement parler, avant même que les audiences ouvrent. Et s'il est historique, ce procès, l'un des indices pourrait en être le fait qu'il est, par exemple, ce qui est rare pour un procès, filmé. Et il y a là une forme d'ailleurs d'ambiguïté quant à ce que la loi qui a autorisé le filmage de certains procès avait prévu et ce qu'on en a fait par la suite. C'est-à-dire que par historique, on a pu considérer la singularité, l'importance des personnes ou des événements et non pas la démarche historique qui fait qu'un historien n'a pas de raison de s'intéresser davantage aux grands hommes qu'à tout un chacun. Et donc, de ce point de vue d'une démarche historienne en sciences sociales, n'importe quel procès pourrait être considéré, en fait, Sylvie Lindeperg, comme historique, c'est-à-dire comme matériau pour l'histoire. Mais par historique, c'est pas ça qu'on entend en règle générale, puisque on a filmé des procès pour des génocides en particulier, ou des procès à propos d'attentats terroristes notamment.
Oui, cette notion de procès historique, je l'interroge. Je l'interroge, je la critique parce que elle est formulée avant même l'advenue de l'événement, ce qui, pour une historienne, est particulièrement singulier. Donc j'essaye de comprendre pourquoi. Alors, c'est une expression qu'on retrouve fréquemment, mais néanmoins, dans le cas de V13, l'argumentation qui est portée par l'institution judiciaire consiste à dire que, finalement, à transférer l'historicité de l'événement lui-même, l'attentat, hein, une déchirure dans le tissu du temps, c'est vécu comme un événement, vers le procès. Et, par ailleurs, de greffer sur cette définition quelque chose qui m'a frappé également, c'est-à-dire la notion d'émotion. Le président de la Cour d'appel de Paris écrit que ce procès doit être filmé parce qu'il a suscité une immense émotion dans le monde et qu'il a marqué la population. Donc là, on a une articulation tout à fait étrange qui consiste finalement à fonder par anticipation l'historicité sur le traumatisme.
Et il y a un lien précisément entre émotion et attention, ce qui, du point de vue de l'économie de l'attention, ne surprend pas, en fait. C'est-à-dire que c'est médiatique parce que ça a affaire avec les émotions aussi.
Absolument. Et la conclusion, c'est pour ça que c'est historique. Donc, voilà. Et le deuxième point, vous l'avez dit, repose finalement sur un syllogisme. La loi de Badinter, donc c'est la loi de juillet 85, autorise l'enregistrement des procès historiques. V13 sera filmé, donc V13 est historique. Et on l'a entendu très souvent à la barre par notamment la partie civile. Alors, et là, évidemment, il y a une contradiction sur l'esprit même de la loi de Badinter,
oui, hein,
qui prévoit non pas de filmer des procès historiques,
mais ce d'archiver
qui relève aussi
au fond le travail
prédiction.
De la justice.
Oui, des archives historiques de la justice,
ce qui n'est pas
qui
du
est tout à fait différent.
Absolument. Alors là, on est dans un cas en plus particulier, parce que c'est le dispositif de filmage qui vous a notamment intéressé. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des caméras dans la salle d'audience pour conserver et proposer un visionnage dans 50 ans de ces images, mais il s'agit aussi d'utiliser ce dispositif de filmage et de captation pour un usage au présent, durant l'audience, puisque l'audience est retransmise dans des salles. Faute de place, tout le monde ne peut pas trouver un siège dans la salle principale. Et donc, il y a un dispositif qui est à la fois utilisé en live, en quelque sorte, et en PAD, comme on dit à la radio, en prêt à diffuser, c'est-à-dire en enregistrement qu'on conserve pour plus tard. Et alors ça, vous avez regardé de très près, au fond, la façon dont c'était articulé, Sylvie Lindeperg.
Oui, parce que je me trouvais dans une position... Alors, je précise que l'image, c'est vraiment pour moi le manche de l'éventail. Le livre, qui est un essai, il porte sur la mise en récit, en scène et en image du procès. Mais l'image permet de bien comprendre les enjeux. Et de fait, l'enregistrement vidéo va se trouver assigné deux missions qui peuvent par ailleurs être assez peu compatibles. La première, donc, dans le cadre de l'enregistrement filmé, je précise que cet enregistrement, il était diffusé en direct sur les écrans, dans les écrans de la salle d'audience. Ce qui, pour les historiens, est quelque chose de fascinant, c'est-à-dire d'être face à une archive en train de se constituer et de mesurer également les écarts entre l'événement auquel j'assistais l'archive... Absolument. Et puis, dans le même temps, le flux audiovisuel a pour fonction de relier une scène judiciaire qui était totalement fragmentée, puisque en raison du nombre de parties civiles, il a fallu construire une immense salle d'audience, mais qui ne permettait pas néanmoins d'accueillir, disons, qui était réservée essentiellement aux avocats et aux parties civiles.
Voilà, alors qu'il y avait des centaines de journalistes accrédités.
Oui, qui se trouvaient dans une autre salle, dans le périmètre de ce qu'on appelait le bunker, hein, et qui était relié par ce fil vidéo, avec quand même une spécificité pour les journalistes, c'est qu'à leur demande, ils avaient fait rajouter deux caméras fixes qui encadraient le flux et qui permettaient aussi d'en comprendre la fonction et les enjeux.
C'est-à-dire que chaque journaliste devait faire sa propre réalisation.
Il devait faire son montage, en quelque sorte, et il voyait tout ce qui, précisément, serait laissé dans leur champ, ou enfin, en tout cas, une partie. Et puis, il y avait d'autres salles, je ne vais pas détailler le dispositif, mais il y avait aussi une dizaine de salles qui étaient complètement à l'extérieur de ce périmètre sécurisé. Qui était réservé à ce qu'on pourrait appeler, avec plein de guillemets, le public ordinaire. Donc on avait d'un côté une salle très homogène.
Public ordinaire, et au nom duquel on rend la justice, quand même.
Au nom de qui est le tiers, qui symbolise le tiers.
Même s'il s'agit de magistrats professionnels, c'est néanmoins au nom du peuple français que cette justice est rendue.
Et qui se trouvait donc dissocié du cœur vivant du procès. Donc l'audiovisuel avait ces deux missions.
Alors, on utilisait tout à l'heure dans la première partie de l'émission avec Pauline Jaroux et Antoine Mégy le mot de cadrage. Vous disiez à l'instant que vous vous êtes intéressé notamment à travers les images, mais pas seulement à la mise en récit et donc à des opérations de cadrage de ce procès, Sylvie Lindeperg.
Oui, l'analyse de ce flux d'images nous révèle de manière très forte les enjeux de ce récit du V13 qui est préparé en amont et qui repose vraiment sur un discours double. V13 sera un procès exemplaire qui mettra en scène les vertus de l'état de droit. Et deuxièmement, V13 va offrir un espace de parole aux victimes, qui est une manière de payer la dette de la France à leur égard. Et ça, on le retrouve dans le filmage, dans les choix de filmage, qui sont extrêmement contraints. Alors, j'ai pas le temps de refaire toute l'histoire de la loi Badinter, mais extrêmement contraints, et qui permettent de voir plusieurs choses. D'abord, la manière dont... Alors, on n'a pas parlé du son, il aurait fallu parler de la web radio, mais en tout cas dans le son et dans les micros, vont donner un pouvoir supplémentaire au président dans sa police de l'audience, et pas seulement sur le plan du son, mais aussi de l'image, puisque les caméras étaient réglées sur l'ouverture et la fermeture des micros.
C'est ça, elles suivaient. Hein.
Et c'est le président qui avait la main sur la fermeture et l'ouverture micro, ce qui avait des conséquences considérables, parce que des prises de parole, j'ai envie de dire non autorisées dans la salle, étaient complètement inaudibles, mais aussi invisibles dans les salles, et le seront, les salles extérieures, les salles annexes, et le seront également dans l'archive.
Vous voulez dire que le président était au fond le réalisateur en direct?
Alors, il était le réalisateur, en tout cas, c'est lui qui avait la main sur le son et donc sur l'image, lorsque... Il y avait notamment des acteurs qui voulaient intervenir de manière impromptue. Ça a eu des conséquences très très importantes qui ne sont pas souvent pensées. Hein. C'est aussi la raison pour laquelle j'écris ce livre, c'est parce que très largement, à mon avis, il y a un impensé. Et précisément, la loi Badinter repose sur un postulat qui me semble tout à fait illusoire de neutralité et même d'objectivité, qui voudrait finalement exclure la question fondamentale qui est la question du point de vue. Or, quand on regarde le filmage, on s'aperçoit, enfin on peut se poser la question qui relie à la question de l'état de droit, c'est-à-dire au fond une égalité des armes entre les parties,
que cette égalité est
entamée. Elle est entamée par les choix de mise en scène, alors je n'ai pas le temps de les développer, mais par exemple, on a tout de suite assisté à une volonté d'exclure du champ les accusés, qui nous livraient finalement un procès sans accusé, alors même qu'on est au cœur d'un procès pénal. Une manière d'accueillir dans le cadre les témoins, qui était à la fois extrêmement, je dirais, délicate, aux antipodes du spectacle télévisuel, mais en même temps un peu gouverné par la peur de l'impromptu. C'est la même chose pour les accusés. Et une volonté de faire disparaître deux choses essentielles dans la parole. C'est qu'une parole est incorporée, évidemment, et que cette logique du corps disparaissait en raison de plans serrés. Et surtout, la dimension de l'écoute. Et il y a une écoute pratiquement sacrée dans cette salle, dont on pourrait reparler, qui va disparaître également du champ. Mise en scène, enfin, de la justice par elle-même. Et ça, c'est un point fondamental, avec une volonté de flatter par l'image la cour, le président. Et ça, c'est un point fondamental, parce que qui règle la grammaire cinématographique, eh bien, c'est désormais le service de communication de la chancellerie. Il y a là quelque chose, un point...
C'est-à-dire que ce n'était pas un tiers...
Alors, c'est un tiers, mais qui est... c'est une société qui a l'habitude, d'ailleurs, de filmer ses procès, qui se trouve en régie, mais qui est entièrement, alors pour le coup, cadré par un cahier des charges...
Défini par le service de communication du ministère.
Par le service de communication, hein, et qui repose sur un principe qui est, finalement, le fil de la parole. Hein, il faut filmer celui qui parle. Mais quand on filme et pas celui qui parle, eh bien, là... on mettait en valeur, par exemple, l'écoute du président de la Cour. Donc on voit bien que cette égalité des armes, elle était un peu faussée, et elle a été d'autant plus que finalement, ce qui m'a frappé, c'est que beaucoup d'avocats des parties civiles considéraient que tout ceci n'était qu'une pure captation. J'ai pu lire qu'il n'y avait pas de montage, c'est un montage en direct, et c'est un montage qui... traduit évidemment un point de vue,
et des
qui
choix.
Est le point de vue de l'institution sur elle-même et sa conception du procès.
Alors, ça devait être une expérience assez extraordinaire pour vous, qui êtes historienne, professeur à l'Université Paris 1, et qui avez l'habitude de travailler sur les images de procès historiques, pour le coup, mais de situations dans lesquelles vous n'étiez pas présente. Pour avoir, j'imagine que c'était la première fois, pu voir la façon dont était produite, saisie ces moments à travers ces images, et... Vous n'avez pas le droit de regarder ces images, mais d'une certaine façon, vous les avez déjà vues en direct. Donc, vous vous êtes fait le film en direct.
Oui,
donc,
je les ai revues d'ailleurs, puisque les chercheurs ont accès
le droit,
désormais
voilà.
Directement et donc, ça, aux images.
Et quelle expérience ça a été de penser, de pouvoir juxtaposer, au fond, l'expérience au présent et puis la trace telle qu'accessible désormais par les images.
C'est une expérience fascinante et je dirais un exercice de désorientation absolue. Puisque j'ai vraiment pu mesurer ce qui est l'objet en général chez un historien de tout un travail d'interprétation pour supposer et pour retravailler avec, je dirais, le hors-champ. Or ici, le hors-champ, C'est la scène judiciaire dans laquelle nous tous étions assis, et puis en plus on était répartis dans plusieurs lieux.
Et vous étiez nombreux, donc vous avez une sorte de don d'ubiquité.
Absolument, j'ai bénéficié de cette grâce de l'ubiquité.
Ça, c'est les vertus de la recherche collective. Un mot, Antoine Mégy, sur cette dimension visuelle et mise en récit dont vient de parler Sylvie Lindeperg.
Ça a été une chance quand on fait un travail d'observation participante depuis plusieurs années dans une salle d'audience, d'un seul coup, d'avoir cette dimension-là qui prend une ampleur particulière et qui en plus est mise en perspective par cette approche d'histoire, du filmage. Et donc pour nous qui faisions de l'observation participante, Pauline plutôt dans une logique, alors moi je fais du Sciences Po, il y avait de l'anthropologie, etc. D'un seul coup, on devait regarder autrement. On avait des codes pour nous quand on était dans la salle et les autres dans les salles de retransmission. Donc c'est aussi par ces partages-là qu'on a réussi à construire leur regard multiple.
Merci Sylvie Lindeperg. Archéologie d'un procès, le livre paraît début octobre. Un verdict sans appel, enquête sur le procès des attentats de novembre, par Pauline Jarroux et Antoine Mégy qui étaient là, avec aussi Sandrine Lefranc et Anne Vivekens. On trouve les références bibliographiques sur la page de La Suite dans les idées.
France Culture, La Suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
Un festival aujourd'hui au programme qui ouvre aujourd'hui à Marseille, une nouvelle édition de Allez Savoir. C'est le titre générique du festival de l'EHESS à Marseille, cette année consacré aux questions d'information. Un festival co-présidé par une sociolinguiste, Cécile Vandenhaven, et un sociologue, Cyril Lemieux. Cyril Lemieux qui doit être avec nous depuis Marseille déjà.
Mais oui, je suis là, sous le grand soleil de Marseille.
Bien. Eh bien, ce festival, qu'est-ce qui vous a conduit à choisir pour thème s'informer vraiment, point d'interrogation, point d'exclamation, cette année?
Oh ben, vous savez, c'est la présidence de notre école qui choisit la thématique du festival. Et qui nous demande ensuite de réfléchir à la mise en œuvre, à la programmation. Donc évidemment, après la question de la nature, des migrations, du temps, la question de l'information apparaissait évidemment tout à fait importante, centrale, au regard de l'actualité politique, bien sûr, au regard aussi de transformations de nos sociétés. Et on avait la certitude que ça allait intéresser le public et surtout qu'on pouvait déployer un point de vue de sciences sociales sur ces questions et contribuer à déplacer un petit peu la vision de ces questions qu'on peut avoir ordinairement.
Alors, d'ailleurs, recours à différents formats, parce que classiquement, dans ce festival, on trouve à la fois des débats, des conférences, mais aussi des projections de films, des spectacles, des expositions. Et puis, c'est à la fois à la Vieille Charité, qui est le lieu historique d'enseignement et de recherche de l'EHESS à Marseille, mais également dans beaucoup d'institutions culturelles de la ville.
Oui, effectivement, c'est en partenariat avec la ville de Marseille depuis 6 ans. Il y a énormément de lieux qui sont mobilisés. Le réseau des médiathèques de la ville, les cinémas, beaucoup de cinémas, des salles de théâtre, des lieux d'exposition. Donc en fait, c'est vrai que on se promène d'un lieu à l'autre autour du Vieux-Port, hein, parce que c'est quand même plutôt dans l'hypercentre de Marseille. Mais finalement, les lieux sont démultipliés. Les formats, comme vous le dites aussi, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a des tables rondes, bien sûr, il y a des rencontres publiques, mais il y a des tas de choses, par exemple, des actions scolaires un peu ludiques, il y a des expositions, il y a des rencontres littéraires, il y a tous ces dialogues entre les sciences sociales et l'art, l'art fiction. Dialogue aussi évidemment avec des acteurs de la société civile. Il y a beaucoup de rencontres qui mêlent à la fois des chercheurs, des chercheuses de différentes disciplines et par ailleurs des acteurs, des journalistes, hein, vu le thème qu'on aborde évidemment, mais aussi des associatifs, etc. Donc Effectivement, c'est très très varié, je dirais. On essaie d'être complet là-dessus.
Et avec une dimension internationale qu'on trouve dès le dialogue inaugural, un dialogue qui se tiendra entre l'historien Antoine Lilti et la sociologue Françoise Dossé, mais dans lequel interviendront pour donner des éclairages un sociologue des médias depuis l'Argentine, Pablo Bokovsky, Lorraine Daston, l'historienne des sciences américaines, une politiste ukrainienne, Tetiana Ogarkova, ou un philosophe sénégalais qui enseigne aux États-Unis, Souleymane Bachir Diagne. Donc une dimension internationale autant que possible, Cyril Lemieux.
Oui, alors ça c'est vraiment un point très important. Je dirais il y a deux dimensions importantes. C'est la profondeur historique d'une part. On parle de l'information, de la désinformation dans nos sociétés, mais à la lumière de ces phénomènes, par exemple dans l'Antiquité, les sociétés traditionnelles. Ça c'est le premier axe. Et le deuxième axe sur lequel on insiste là, c'est l'international, c'est la mondialité, c'est de faire varier les aires culturelles. On a beaucoup de chercheuses et de chercheurs qui sont spécialistes de différentes aires culturelles. Donc l'idée, c'est de travailler sur des questions de comparaison, des questions de transfert aussi, d'ailleurs. Et donc effectivement, pour ce dialogue inaugural, ça nous tenait à cœur d'avoir des petites capsules vidéo faites avec des chercheuses et des chercheurs du monde entier, qui s'expriment d'ailleurs dans leur langue. Donc, par exemple, la politiste ukrainienne, elle va parler en ukrainien, etc. C'était important aussi qu'on ait cette pluralité de langues ce soir. Et puis, pour y réagir, il y a donc Antoine Lilti, spécialiste des Lumières, et Françoise Dossé, une sociologue spécialiste de la Russie. Donc là aussi, un dialogue interdisciplinaire avec, on espère, des croisements multiples, mais toujours dans cet esprit d'inviter le public à se déporter vers un regard, le type de regard que permet les sciences sociales.
Et des comparaisons, des analogies, rien que si on... rien que les noms d'Antoine Lilti et de Françoise Dossé permettent de saisir ça. Antoine Lilti travaille sur l'espace public, sur les lumières, sur les échanges, la publicisation à partir du 18e siècle, là où Françoise Dossé travaille sur le monde post-soviétique et donc se pose aussi des questions de confusion, de désinformation, de mésinformation qui sont aujourd'hui très très présentes dans l'espace public français.
Oui, alors moi je suis très curieux, je suis très excité par ce dialogue, pour les raisons que vous venez de dire, c'est-à-dire le croisement de deux perspectives qu'on imagine complémentaires. Évidemment, Antoine Lilti travaille sur la naissance de l'espace public moderne, critique, européen, et Françoise Dossé sur la difficulté à le faire vivre dans un pays comme la Russie aujourd'hui. Au-delà de ça, si vous voulez, dans ce dialogue, on a essayé d'organiser les choses autour de différents axes, sur la question de la désinformation, essayer de montrer que c'est pas une question... Alors, dans la forme qu'elle a aujourd'hui, évidemment, elle est tout à fait nouvelle, mais qu'en même temps, il y a de la désinformation depuis qu'il y a de l'information, et essayer de comprendre les mécanismes socio-historiques. Donc, Antoine Lilti aussi nous parlera des rumeurs, des bruits, de la désinformation à l'époque au XVIIIe siècle. Voilà, c'est vraiment faire travailler ensemble là les différents points de vue disciplinaires. Et ça se retrouve après tout au long du festival, 50 événements dans lesquels il y a beaucoup d'échos. Par exemple, je pense il y a beaucoup de choses sur la Première Guerre mondiale, l'information en temps de guerre. Et ben, ça fait directement écho, c'est vrai, à la situation ukrainienne à laquelle on consacre également une rencontre. Et des croisements sont multiples. Vraiment, on peut prendre le programme et s'amuser à faire ces croisements. J'espère que les gens qui vont participer au festival s'amuseront à cela et ils prendront en tout cas du plaisir.
Alors, partenariat avec France Culture, par exemple, on y trouve un débat qui sera animé par Aliette Ovine, qui produit l'émission sur cette même tranche sur l'économie. Débat avec notamment Arnaud Aurin, Elisa Mougin et Benjamin Lemoine sur la question de l'information et de la désinformation économique. On trouvera du côté de la littérature Arnaud Bertina, dont je précise qu'il est un enseignant invité à l'École des études en sciences sociales, qui a renoué de ce point de vue avec une proximité avec avec les écrivains, et puis aussi puisque le cinéma n'est pas en reste, et puis qu'elle était l'invitée de cette émission dans des conditions un peu difficiles, mais depuis Venise il y a quelques semaines, Sépide Farsi, dont le film sera projeté dans ce festival, Put Your Soul on Your Hand and Walk, le très très beau film de Sépide Farsi qui sera projeté samedi à 14h30 à la Baleine à Marseille. Ce n'est qu'un exemple, on trouve tout ça sur le site du festival qu'on trouve sur la page de La Suite dans les idées. C'était La Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Aurélie Marcet, à la technique Ludovic Auger, à la réalisation Camille Mathy.